L'alliance de mariage numéro 3. Le quatrième commandement. Pas en vain. Dimanche. 1er octobre 2000. Brian Kozurek. Ce matin, j'aimerais continuer cette mini-série de réunions sur l'alliance de mariage. Comme vous le savez, la semaine passée, nous avons commencé cette série de réunions dans laquelle nous allons étudier chacun des 10 commandements de Dieu. Nous pouvons voir comment Dieu nous a donné les 10 commandements, non pas comme des lois auxquelles obéir, mais plutôt, ils nous sont donnés pour établir et confirmer notre relation avec le Père. Ces 10 commandements servent à nous diriger, à nous guider, et à nous montrer le chemin convenable d'établir l'atmosphère d'amour et de respect, qui est un nécessaire, non seulement dans notre relation avec le Père, mais aussi dans nos relations les uns avec les autres. Nous avons découvert dans notre étude que ces 10 commandements nous ont également été donnés afin que nous puissions les appliquer dans notre alliance de mariage. La semaine passée nous avons examiné ce qu'est une alliance et nous avons vu que nous n'aimons, pouvons pas avoir d'alliance ou de contrat à moins d'avoir une rencontre des pensées. Comme nous l'avons fait remarquer la semaine passée, Dieu est l'auteur du mariage, et en tant qu'auteur et concepteur du mariage, il connaît ce qu'il faut pour avoir un mariage réussi et durable. Dans Genèse 2h18, c'était Dieu qui avait dit, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Frère Branham nous a dit que Dieu a institué le mariage au commencement. Dans le message intitulé, le signal rouge de sa venue 63-0623 paragraphe 68 il a dit, le mariage, Dieu a institué cela en Éden, mais il condamne certainement l'adultère. Et dans le message de compte à rebours 62-0909 paragraphe 34, il nous a dit, nous prenons par exemple le mariage communion, nous découvrons que le mariage, nous avons la fréquentation, les ententes, puis le mariage. Et nous remarquons ici qu'il parle d'un ordre. En commençant par la fréquentation, puis une entente, et ensuite le mariage. Par conséquent, il y a 3 éléments qui constituent cette sainte union. Numéro 1, la fréquentation. Or, la semaine passée, nous n'avons pas abordé la définition de la fréquentation, parce que nous avions déjà étudié cela il y a plusieurs années, lorsque nous avions prêché sur sortir avec une fille et fréquenter une fille. Mais pour rafraîchir vos mémoires, laissez-moi vous dire qu'il y a une différence majeure entre la fréquentation, courtship, la cour ou action fréquenter une fille dans le but de la prendre en mariage. Trad. Et le concept moderne, qui consiste à sortir avec une fille, dating, sortir avec quelqu'un de sexe opposé pour les loisirs, les plaisirs, les aventures, etc. Trad. Numéro 1. La fréquentation a des règles. Sortir avec une fille n'a pas de règles. Numéro 2. La fréquentation fait intervenir la famille en premier lieu. Sortir avec une fille exclut toutes les autres personnes, excepté ces 2 personnes concernées dans cette relation. Numéro 3. La fréquentation prend du temps, alors que sortir avec une fille est un acte instantané, et par conséquent, ça conduit à un plaisir instantané qui aboutit à l'immoralité et à la fornication. Numéro 4. Par conséquent, la fréquentation enseigne la patience alors que sortir avec une fille conduit à un plaisir instantané. Numéro 5. En enseignant la patience, la fréquentation construit le caractère et renforce l'engagement ou la fidélité, alors que sortir avec une fille ouvre la porte à un manque d'engagement. Si tu n'arrives pas à obtenir ce que tu recherches auprès de cette fille au moment où tu veux la voir, tu te mets à rechercher ça et là jusqu'à ce que tu fasses ce que tu veux faire. Examinons plus en détail ces 5 principes de la fréquentation pendant un instant. Numéro 1. La fréquentation a des règles, Sortir avec une fille n'a pas de règles. Les règles sont indispensables pour maintenir l'ordre et le but. L'une des plus grandes malédictions, pour n'importe quelle civilisation est un effondrement des règles d'ordre. Et quand la fréquentation a été remplacée par les intérêts personnels, le mariage également n'a pas tardé de faire naufrage. Comme nous l'avons mentionné dans notre étude du premier commandement de l'alliance de mariage la semaine passée. Le premier commandement est « tu n'en auras pas d'autre ». Cependant, sortir avec une fille abolit la première règle de l'alliance de mariage. Les gens cherchent à courir les filles. Courir les filles n'est pas considéré comme une chose durable. Courir les filles est une affaire du présent. Courir les filles Naomi voit pas les choses à long terme, mais Naomi tient en compte que le présent. Sa Naomi regarde pas les conséquences, mais plutôt, sa Naomi regarde que les intérêts personnels. Quand il n'y a pas d'ordre, il n'y a que le chaos. Et quand il n'y a pas de règles ou de règlements, il n'est mis peut y avoir de l'ordre. Le règlement guide, le règlement dirige, le règlement indique la voie à suivre, et les règlements protègent. C'est la raison pour laquelle nous voyons une augmentation de promiscuité sexuelle et des viols commis par des personnes connues de la victime. Cela montre un mépris total ou un manque total de considération envers la femme. Dans la fréquentation, on n'a jamais entendu parler de viol commis par une personne connue de la victime. On n'en a jamais entendu parler. L'homme sait que s'il n'obéit pas au règlement, il ne va pas faire ça dans le processus. Et la femme, de son côté, elle utilise les règlements pour se protéger. Elle sait qu'il y a des limites à ne pas atteindre ou dépasser. Et l'homme, lui aussi, il n'ose pas aller au-delà de ses limites sans mettre en danger tout espoir des relations à long terme. Voilà pourquoi les règlements de la fréquentation ont été établis comme zone de sécurité où elle peut aller, et ceci lui donne une sorte de couverture de sécurité qui aide à créer une atmosphère de repos et de détente. Numéro 2. La fréquentation fait intervenir la famille en premier lieu. Sortir avec une fille ou chercher à courir avec une fille exclut toutes les autres personnes, excepté ces deux personnes concernées dans cette relation. Il est important de noter que dans les règlements de la fréquentation, la famille vient en première position. En effet, si un jeune homme arrive à avoir du penchant pour une jeune fille, il doit d'abord passer le test de la famille. Il viendra rendre visite à la famille et s'il veut parler à la fille, lui et elle, ils devront s'asseoir dans le parloir ou dans la pièce de devant, à la vue de tous, et là, ils vont avoir leur entretien. Encore une fois, le règlement donne à la fille une zone de sécurité où elle n'est mise peut pas être intimidée dans une relation où elle n'est mise se sentira pas à l'aise. Ça. C'est le règlement le plus important pour préserver la vertu de la jeune femme. S'il arrive que le jeune homme ait des problèmes avec son explosion hormonale, ça n'aura pas de voie de sortie en présence de la famille. Il a non seulement ses propres émotions à contenir, mais il doit faire face au grand frère colérique ou peut-être au papa colérique également. Le papa de la fille et le grand frère de la fille, étant des hommes, ils peuvent lire les actions de cet homme et ils sont mieux au courant de toutes les avances que la fille n'arrivera pas à comprendre. Ils viendraient à rater cela et ils en avertiraient même la fille. En tant qu'homme tout simplement, nous n'arriverons peut-être pas à comprendre les mécanismes de nos femmes. L'apôtre a dit dans 1 Corinthiens 2, 11 lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est stère l'esprit de l'homme qui estère en lui. De même, personne n'est mais connaît les choses de Dieu, si ce n'est stère l'esprit de Dieu. 12 Or nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Ici, Polaster en train de nous dire qu'il n'y a pas moyen de comprendre les choses de Dieu si nous n'avons pas l'Esprit de Dieu en nous. Il nous faut l'Esprit de Dieu pour comprendre les choses de Dieu. Et il dit qu'il nous faut l'Esprit de l'homme pour comprendre les choses de l'homme. C'est la raison pour laquelle on dit que les hommes viennent de Mars et que les femmes viennent de Venus. Les hommes et les femmes sont tellement différents les uns des autres, qu'il apparaît des fois que nous venons des planètes complètement différentes. Nous sommes différents, non seulement physiquement, mais aussi spirituellement. Et il faut être un homme pour connaître ce qu'est un homme, tout comme il faut être une femme pour connaître ce qu'est une femme. En tant que pasteur, j'ai parlé à des hommes et à des femmes pendant des années, et ce n'est pas étonnant que, dans bien des cas, peu importe qu'il s'agisse d'une femme qui est chrétienne ou d'une femme non chrétienne, les femmes ont tous certains attributs qu'elles possèdent dans leur esprit que les hommes n'y possèdent pas, et que les hommes ont de la peine à comprendre. La femme semble harcelée, et ce n'est pas simplement le fait de soulever une différence d'opinion, mais plutôt, c'est comme de l'eau qui tombe goutte à goutte d'un robinet. C'est constant, goutte à goutte. Et elle n'harcèle pas seulement pour les choses présentes. Mais la femme semble avoir le don d'oublier difficilement, et quand l'esprit de harcèlement se met en marche, elle se souvient non seulement des désaccords présents, mais aussi de toutes les choses du passé qu'elle n'aime pas. Naturellement, les hommes se plaignent, mais leurs plaintes n'émises peuvent pas changer la nature des femmes. Et alors, certains d'entre eux, du fait qu'ils n'ont peut-être pas de femmes croyantes, ils se mettront à penser que la raison pour laquelle leurs femmes font des choses pareilles est qu'elles n'émises sont pas des croyantes. Mais en cette matière, la plupart des fois, la chose qui tourmente réellement un homme concernant sa femme n'a rien à voir avec cela. Que la femme soit une croyante ou pas, le fait est simplement que son épouse est une femme et que lui, il est un homme. Et une jeune femme, peu importe combien elle peut penser être spirituelle, et peu importe combien elle peut penser bien connaître le jeune homme, en réalité elle l'aime et il le connaît pas, et elle se permettra de laisser arriver une situation, spécialement si elle est désireuse du jeune homme qui la sollicite. Combien de jeunes filles n'ont-elles pas perdu leur vertu, parce qu'elles se sont retrouvées prises au piège, étant abandonnées à elles-mêmes, de nouer seules leur relation, elles ont senti que si elles n'avaient pas cédé aux demandes du jeune homme, il pourrait penser qu'elles n'aiment pas. Elles, voulant montrer son amour, elle se sent alors obligée à lui satisfaire, et avant de s'en rendre compte, elle a perdu sa vertu et il a perdu son respect envers elle. Mais dans l'environnement de la fréquentation, la famille est impliquée. La famille est de la jeune femme et l'encadre, et ceci lui donne cette zone de sécurité dont elle a besoin, là où elle sait qu'on est aimé, va pas abuser d'elle. Le papa connaît les pensées du jeune homme, parce que le papa lui aussi était une fois un jeune homme lui-même. Le grand frère connaît les pensées qui se passent dans l'esprit du jeune homme. Parce que lui aussi, il est jeune, et que peut-être lui aussi a eu ses mêmes désirs peut-être pour la fille de quelqu'un d'autre. Mais celle-ci, c'est sa propre sœur, et lui-même étant là, il n'aime peut pas laisser quelqu'un abuser de sa sœur. Elle aussi, elle sait que si elle refuse cet homme, sa famille continuera à l'aimer et à prendre soin d'elle, et par conséquent, elle n'est pas seule dans cette épreuve. La maman fait aussi partie de cette équipe de fréquentation, et elle aussi, elle est là pour aider, et pour encourager. Et peut-être pour enseigner à sa fille comment arriver à bâtir convenablement une relation. Tout le rituel de la fréquentation est après tout un exercice qui consiste à bâtir la maturité, et il y a beaucoup d'expérience qui devra être glanée auprès de maman, et de papa, et peut-être même auprès du grand-père ou de la grand-mère. Numéro 3. La règle numéro 3 de la fréquentation, vous devez prendre votre temps. Alors que d'autre part, sortir avec une fille est un instantané, et par conséquent, ça conduit à un plaisir instantané qui aboutit à l'immoralité et à la fornication. Mais l'élément temps qui est appliqué dans la fréquentation fait aussi partie de la zone de sécurité, parce que les décisions peuvent être retardées jusqu'à ce que l'on soit sûr. Ceci crée la sécurité, et ça aide à bâtir une relation durable. Les décisions némies doivent pas être prises sans avoir dûment réfléchi et sans s'être suffisamment préparé. Quand on lui pousse à prendre une décision à la hâte, elle peut entrer dans la ligne de temps et sentir la sécurité de savoir qu'il y a une attente certaine qu'elle attend. Bien des fois, les jeunes gens entendront leurs parents dire « Attends, attends, Némi ne te précipite pas dans cette relation. » Et ce n'est que quand ils seront profondément touchés qu'ils finissent par comprendre pourquoi les parents les ont avertis d'attendre. L'un des plus grands avantages de la fréquentation est qu'elle diffère de sortir avec une fille en ce que la fréquentation exige de prendre du temps. Le but qui réside derrière cette prolongation de temps est que ça permet soit de continuer à évoluer ensemble soit de se séparer avant que vous puissiez réellement faire un choix. Les Écritures nous disent clairement dans Esaïe 40, 31 « Mais ceux qui s'attendent à l'Éternel renouvellent leur force. » Darby, frère Branham a dit, ceux qui attendent, ils reçoivent la promesse. Par conséquent, ce qui prend du temps à croître sera plus fort et plus durable. L'élément temps dans la fréquentation vous enseigne à avoir la patience dans votre relation. Il vous enseigne que toutes les choses némies doivent pas être résolues immédiatement, mais qu'à travers le temps vous pouvez travailler ensemble pour trouver une solution. Les Écritures nous enseignent dans Jacques 1, 4 « Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfait et accompli, sans faillir en rien. » Et le mot « parfait » utilisé ici vient d'un mot grec « teleio » et ça parle d'arriver à la pleine maturité. En d'autres termes, la patience doit produire la maturité. Et quand j'observe parmi les jeunes gens, dans ce message, qui se mariaient, dans ces 10 dernières années, j'ai vu très peu de patience parmi eux. Pour être très sincère, la plupart n'étaient pas prêts pour le mariage, mais il était préférable pour eux de se marier que de brûler, comme l'a suggéré l'apôtre Paul. Mais le fait demeure toujours que s'ils avaient pu contrôler leur pression hormonale, ils seraient entrés dans le mariage, mieux préparé à assumer la très grande responsabilité que ce mariage exige d'eux. Mais très peu de jeunes hommes qui grandissent de nos jours semblent avoir un niveau mûr de patience et ils sont su qu'ils ont beaucoup de temps d'apprentissage avec leurs épouses. Nombreux d'entre eux, ils n'ont pas appris que le mariage est un dépôt sacré où deux personnes deviennent unies dans la vie. Il est encore des joies de petits garçons, avec ses amis, et il s'attend à ce que sa femme s'accommode à sa petite culture à lui, alors qu'elle, elle a peut-être été élevée dans un autre environnement totalement différent, parmi des gens différents. Et d'habitude, elle l'épouse, pensant qu'elle sera capable de changer les choses en lui qu'elle n'aime, et tous les deux commencent mal acquis. Règle numéro 4. Par conséquent, la fréquentation enseigne la patience et la patience attire le résultat de la fidélité. Quelle femme voudra-t-elle attendre un homme qu'elle croit qu'il n'aime et lui sera pas fidèle si elle attend trop longtemps? Quelle femme voudra attendre si elle pense que l'homme n'aime et le voudra pas? Vous n'aime et pouvez pas avoir la patience quand il n'y a pas de fidélité. Et s'il n'y a pas de fidélité, pourquoi attendriez-vous? Par conséquent, le processus de la fréquentation peut être considéré comme une épreuve de votre confiance. La confiance que vous avez l'un dans l'autre est mise à l'épreuve durant ce processus, et en prolongeant cette période de temps, ça permet de faire voir à tout la fidélité de chacun. H de Thyatire, expose chapitre 6224-1. Or, la fidélité et la patience vont ensemble. En fait, la patience, c'est ester le produit de la fidélité, car il est ester dit dans Jacques 1.3, l'épreuve de votre foi produit la patience. Il n'y a absolument aucun autre moyen d'obtenir la patience. Elle doit venir par l'épreuve de notre foi. Romains 5.3, la tribulation produit la patience. Version Darby-N.D.T. Nous pouvons voir dans Jacques 1.4 combien Dieu apprécie ce produit de notre patience, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. La volonté de Dieu pour nous, c'est ester la perfection. Et cette perfection, c'est ester la patience, de s'attendre à Dieu et d'attendre Dieu. C'est ester ainsi qu'on développe le caractère. Si les jeunes gens aujourd'hui pouvaient fréquenter une fille plutôt que de sortir avec une fille, ils auraient au final appris la patience. Et la patience vous enseigne que si je peux l'attendre, elle, jusqu'à ce qu'elle se sente suffisamment à l'aise de se marier avec moi, alors j'arriverai aussi à attendre pour avoir des relations avec elle. Alors j'arriverai aussi à attendre d'acheter cette première maison. Jusqu'à ce que j'aie les moyens de l'acheter, j'arriverai à attendre pour commencer notre famille. Et j'arriverai à attendre pour les autres choses également. Cependant, aujourd'hui, nous n'y voyons pas beaucoup de jeunes gens qui sont disposés à attendre quoi que ce soit. Ils doivent avoir ça tout de suite. Et ainsi, le nombre de grossesses hors mariage s'élève à 70% pour les noirs et à 40% pour les enfants blancs. La fréquentation ralentit le pas et vous accorde le temps de réfléchir sur ce que vous dites dans votre conversation, et ça permet à la famille d'être impliquée dans votre processus de prise de décision. Et permet aussi à la famille de vous donner une autre opinion, un autre point de vue, et souvent, elle vous aide à être plus attentive dans votre prise de décision. Par conséquent, nous arrivons à la règle numéro 5 en enseignant la patience. La fréquentation construit le caractère et renforce l'engagement. Et l'engagement, c'est ester la fidélité. Frère Branham nous a dit, la volonté de Dieu pour nous, c'est ester la perfection. Et cette perfection, c'est ester la patience, de s'attendre à Dieu et d'attendre Dieu. C'est ester ainsi qu'on développe le caractère. L'implication de la famille ester très importante. Parce qu'après tout, quand vous épousez dans une famille. Les jeunes et ceux qui manquent de maturité pensent qu'ils peuvent prendre des décisions sans que la famille soit impliquée. Mais faire pareille chose, ce n'est ester ni sage, ni bon pour une relation durable. Quand vous avez été élevé dans une famille et que vous avez des liens très profonds avec votre famille, vous n'arriverez pas à vous en écarter. Une personne qui n'a pas de maturité, souvent, elle dira des choses, et elle fera des choses, et peut-être, elle fuira la situation, mais qu'ensuite, une fois qu'elle commence son long voyage de la vie avec son mari, les valeurs de sa propre famille se feront voir, son éducation d'enfance se fera voir, et ses attentes d'une vie vécue ensemble avec ses parents et ses frères et sœurs, ça se fera voir également dans son mariage. L'arbre tombe du côté où il se penche, et Proverbe 22, 6 nous dit, instruit l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Ça fait désormais partie de votre vie, de votre formation, et vous ne pouvez pas d'un coup rejeter l'éducation reçue pendant 18, voire même 20 ans, pour repartir à zéro. Par conséquent, le processus de la fréquentation, en prenant du temps, aide le couple à grandir ensemble, et à aplanir toutes les différences qui peuvent être aplanies avant que le mariage ait lieu ou au moins Ça aide l'autre de supporter les différences en entrant dans le mariage. Et par conséquent, un certain niveau de maturité Esther atteint avant que le mariage ait lieu. La semaine passée, nous avons examiné le premier commandement dans l'alliance de mariage, et nous avons découvert que c'est Esther le même commandement que Dieu donne à son peuple. Tu n'en auras pas d'autre en dehors de moi. Exode 20, 1. Alors Dieu prononça toutes ces paroles, en disant, je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. 3. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. 4. Tu n'émis te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. 5. Tu n'émis te prosterneras point devant elles, et tu n'émis les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération de ceux qui me haïssent, si ce qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Remarquez, Dieu Esther le mari, et l'a sollicité de prendre Israël comme épouse. Et sa première règle qu'il a établie pour cette relation de mariage Esther, tu n'auras aucun autre à part moi. Frère Branham a utilisé cette même règle quand il prononçait l'alliance de mariage chaque fois qu'il bénissait un mariage. Maintenant, ce matin, j'aimerais examiner la règle numéro 2 de l'alliance de mariage. Et j'aimerais intituler cela, la règle ou les commandements pas en vain. Dans Exode 20, 7. Nous lisons, tu n'émis prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. Car l'Éternel n'émis laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Or, le mot vain utilisé ici, a plusieurs significations. La première signification, d'après Webster, Esther, avoir une opinion trop élevée de soi-même. Autrement dit, vaniteux. Satisfaction personnelle est le contraire d'être vain Esther, être modeste, humble, effacé, sans prétention. La nouvelle version internationale traduit ce verset d'Exode comme ceci, tu n'utiliseras pas abusivement le nom du Seigneur ton Dieu, car le Seigneur ton Dieu n'émis laissera pas impuni celui qui utilise abusivement son nom. La traduction amplifiée dit, tu n'utiliseras pas ou tu n'émis répétera pas le nom du Seigneur ton Dieu en vain. Esther a dit, le prendre à la légère ou de manière frivole, dans une fausse affirmation ou en proférant des grossièretés, car le Seigneur n'émis laissera pas impuni l'homme qui prend son nom en vain. Jésus nous a dit, combien Esther en vain qu'ils enseignent des préceptes ou des doctrines qui sont des commandements d'homme. Matthieu 15, 9. Voir aussi Darby et que vous annulez ou vous rendez sans effet ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Matthieu 15, 6. Et la même chose Esther valable pour l'épouse dans notre alliance de mariage. C'est Esther pourquoi, si nous devons appliquer les 10 commandements dans notre alliance de mariage, nous n'aimons et devrons jamais prendre notre alliance de mariage à la légère. Faire quelque chose en vain, ça montre que vous n'avez pas réfléchi sur ce que vous faites. Vous prenez cela avec légèreté, et vous n'y réfléchissez pas sur ce qu'en seront les conséquences. Très souvent, aujourd'hui, nous voyons la jeune femme aller à l'extrême pour attirer le jeune homme. Elle se mettra à examiner attentivement chaque cheveu de sa tête. Elle va se regarder dans le miroir pendant des heures et des heures pour s'assurer que son apparence va attirer le jeune homme. Et sa manière de parler, sa manière de s'habiller, sa manière d'agir, tout cela Esther un effort pour gagner l'attention du jeune homme. Et peut-être pour gagner la main du jeune homme dans le mariage. Mais juste après le jour de mariage, la bonté s'en va, la modestie s'en va, elle n'y prête plus attention aux détails dans son apparence, Elle-même se soumet plus à lui, et elle-même cherche plus l'affection de son mari, et alors le mariage s'arrête là-même. D'autre part, le jeune homme entre dans le processus de la fréquentation en espérant attirer la jeune femme par son apparence à lui, et par ses actes. Il s'habille bien, en portant les meilleurs vêtements quand il va la rendre visite. Il peigne très bien ses cheveux, et il nettoie sa voiture, et il met un peu de parfum, dans l'espoir de continuer à dégager ce doux parfum quand bien même sa nervosité pourra lui faire transpirer comme s'il faisait du sport. Mais il fait toutes ces choses. Il travaillera dur pour venir la visiter avec des cadeaux. Et tout cela, c'est Esther pour attirer l'attention et l'amour de la jeune femme. Mais une fois que les vœux ont été prononcés, l'attitude semble changer de vitesse. Et ce, dans le sens contraire, et il oubliera vite qu'elle est Esther là. Elle oubliera de se garder belle pour lui, et très bientôt, si Naomi font pas attention, ils deviendront ordinaires l'un à l'autre, et commencer à se considérer l'un l'autre comme cela. À ce moment-là, ils prennent leur mariage en vain. Ils prennent l'un l'autre en vain. Et Jésus a dit que quand vous prenez cela en vain, cela devient sans effet. Comment une relation peut-elle fleurir si elle est prise à la légère? Comment un mariage peut-il être fructueux et plein de bonheur si vous n'avez pas de considération pour votre conjoint, ou si ses sentiments sont pris à la légère? Ou si son opinion n'est plus importante pour vous? L'union de mariage est devenue vaine. Elle est devenue inutile. Et l'atmosphère qui règne maintenant est celle d'une indulgence centrée sur soi-même. Il n'y a plus de modestie au profit de l'autre, mais c'est devenue une auto-indulgence. Les Écritures nous disent, comment deux personnes peuvent-elles marcher ensemble si elles n'y sont pas d'accord? Il y a des années de cela, dans les réunions de famille, les couples nouvellement mariés participaient à un jeu. Ce jeu était appelé la course de sac à seau. Chaque couple nouvellement marié mettait un pied dans un sac à seau et courait contre les autres couples. Si le couple travaillait ensemble, il pouvait courir plus vite, et il pouvait peut-être gagner la course. Mais s'ils n'arrivaient pas à marcher en synchronie l'un l'autre, alors ils étaient condamnés à perdre dans leur course. Je crois que quand nous sommes unis ensemble dans le mariage, nous avons l'obligation de marcher ensemble. Elle ne doit plus considérer que ses besoins à elle sont supérieurs à leurs besoins communs. Et lui aussi, il ne doit plus considérer que ses besoins à lui sont supérieurs à leurs besoins communs. Mais ils se sont mis d'accord de défaire, ce qui signifie que les besoins communs de ces deux personnes passent avant les besoins individuels de chacun. Dans le message Le Signal Rouge, Frère Branham a dit, remarquez, il n'y a rien de mieux que Dieu pouvait donner à un homme en dehors d'une femme généreuse. Il n'y a aucun homme qui peut consoler, personne qui peut consoler un homme quand il est fatigué. Il n'aime et se confiera à qui que ce soit comme à sa femme. Et vous, frère, vous pouvez vous estimer heureux si vous avez une gentille petite femme qui est Esther pure, droite et morale, et quand vous rentrez à la maison et que vous êtes fatigué et épuisé et que vous vous asseyez, elle peut vous parler. Elle peut faire plus pour vous que n'importe qui d'autre. C'est Esther vrai? Elle est Esther un joyau? Elle est Esther une reine? Mais qu'arrive-t-il quand cette relation Esther est devenue inutile ou qu'elle Esther est devenue vaine? Dans son livre, Les besoins de l'homme, les besoins de la femme, Dr. Villareff, Harley, Jérémy, soutient que pour voir aux besoins de l'un et de l'autre, Esther c'est la clé pour rendre votre mariage heureux et à l'abri de l'infidélité. Dr. Harley, qui dirige un réseau de cliniques de santé mentale dans l'État de Minnesota, il avait plus de 20 ans d'expérience à conseiller des centaines de couples. Il a écrit, une fois que les besoins fondamentaux de l'épouse Naomi sont pas satisfaits, Cela crée une soif qui doit être étanchée. Si des changements némis sont pas entrepris dans le mariage pour s'occuper de ce besoin, l'individu va faire face à la puissante tentation de trouver satisfaction en dehors du mariage. Remarquez comment il parle de ses besoins à satisfaire qui sont innés, lesquels créent une soif si les némis sont pas satisfaits. Frère Branham Néhémie nous parle-t-il pas des mêmes choses quand il nous a dit, Dieu met une soif dans l'homme, et l'homme essaie d'étancher cette soif de lui-même? Quand nous avons des besoins, qui Néhémie sont pas satisfaits, cela montre clairement que nous sommes devenus isolés dans notre mariage, du moins dans si certains domaines. Mais si souvent, nous nous retranchons dans un état d'isolement plutôt que de s'efforcer de résoudre le problème. Exactement comme un homme qui commence avec l'anxiété, puis passe à la compulsion, et la possession, la peur, la dépression, et dans l'isolement ou la solitude. Ceux qui se glissent dans l'isolement, ils le font non pas parce qu'ils n'aiment veulent pas être blessés, mais plutôt ils pensent qu'il y a du réconfort et de la consolation et de la sécurité dans la solitude. La paix d'éviter vaut mieux que la douleur d'affronter la réalité. Mais ce genre de mort est très trompeur. L'isolation n'est pas contrainte sur un couple marié. Nous nous trompons nous-mêmes par l'atmosphère que nous avons créée dans nos foyers. Nous nous imaginons que le temps nous presse. Et que nous avons beaucoup de travail. Ainsi que les anxiétés économiques. Cela nous conduit à croire que nous sommes excusés de notre manque d'intérêt à subvenir aux besoins de nos épouses. Chaque jour nous sommes confrontés à des choix que nous devons faire. Et ce sont ces choix que nous faisons qui nous amèneront soit dans une plus grande bénédiction dans nos relations, soit qui nous conduiront dans une dépression et un isolement final. Comme je l'avais dit auparavant dans la mini-série de réunions que j'avais prêchée il y a quelques années, intitulée Votre foyer est la maison de Dieu. Et dans la série intitulée, Tel un homme pense dans son cœur. Vous vous souvenez sans doute là où nous avons trouvé que les semences de chaque épreuve, et que toutes les réactions dans lesquelles nous passons, ce n'est que le fruit de ce que nous avons déjà semé dans notre pensée. C'est à notre pensée qui entre dans la manière d'avoir les relations les plus merveilleuses. C'est à notre pensée qui devient fatiguée et qui semble chercher une solution facile. C'est dans notre pensée que nous avons l'occasion de prendre la voie pourvue par Dieu pour notre mariage ou de prendre la voie qui semble bonne seulement à l'instant. Et c'est dans notre pensée que l'atmosphère est créée pour soit faire exister des relations merveilleuses et harmonieuses ou soit produire un isolement destructif. Tout cela commence dans la pensée. Nous savons que nous sommes à l'heure où l'Église aboutit à un divorce, car elle s'isole de l'époux. Jésus crie la parole. Il se tient dehors en train de frapper à la porte, dans l'espoir qu'on lui fasse entrer. Mais Néhémie veut pas ouvrir la porte. Oh! Combien j'espère que vous voyez que Esther a l'esprit de l'âge. Néhémie, soyez pas emporté dans cela. Sinon votre mariage l'un avec l'autre et votre mariage avec Christ va se terminer sur un tas de cendres de l'histoire. Voici le temps de nous réveiller et de nous secouer. Pincez-vous pour vous assurer que vous êtes éveillé. Souvenez-vous, frère Branham nous a enseigné de regarder la femme et vous allez voir l'état de l'Église. Dans le message Je resterai, frère Branham a dit, pas seulement parmi les dénominations pentecôtistes, mais dans toutes les dénominations, ce grand gazam a détruit la fraternité. Ça l'a fait avec les luthériens. Ça l'a fait avec les baptistes. Ça l'a fait avec les presbytériens. Ça l'a fait avec les nazaréens. Ça l'a fait avec les pentecôtistes. Ce ver a toujours été là-dedans, pour les amener à s'isoler. Nous l'avons. Vous, vous n'avez rien. C'est un dommage. Il continue à dire. Et avez-vous remarqué que c'est le même insecte du début à la fin? Or, le vieux démon Gélec est entré, et il s'est également introduit dans la peau. Vous savez, il vous ronge. Une fois qu'il découvre un petit quelque chose, et quand il le fait, peu importe ce que quelqu'un d'autre essaie de dire, il va s'accrocher à sa position, et il va isoler son petit groupe dans quelque chose, mais, ça veut dire ceci. Frère, ça ne veut pas dire ceci, ça veut dire cela. Pourquoi certaines personnes n'aimées conservent-elles pas la victoire? Ainsi, il faut que le baptême du Saint-Esprit entre dans le corps humain pour que la chose marche comme il le faut. L'amour de Dieu, Dieu est amour. Et à moins que chacun de ses dons soit bien placé au centre de l'amour, ça deviendra égoïste et indifférent, et ça se retranche, et ça s'isole, ça s'oppose, ça crée des histoires et ça s'emporte. Mais une fois que c'est ancré correctement au milieu de l'amour, ça communiera où que ce soit. Et c'est vrai. C'est exactement ce dont nous avons besoin. L'Église se meurt pour l'amour, frère. Écoutez-le, vous n'allez jamais vous isoler et recevoir quelque chose de Dieu. Erich Fromm a une fois déclaré, se sentir complètement seul et isolé, ça mène à la désintégration mentale. Tout comme une faim physique mène à la mort. C'est Grâce Fellowship Tabernacle, juin 2003. Veuillez adresser toute correspondance ainsi que vos questions et vos commentaires concernant ce site internet à briancocourec@yahoo.com.